Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Alors, la petite dernière est arrivée sous pilule.
Ok. Ah.
Voilà.
C'est des choses qui arrivent.
Voilà. Et qui n'étaient pas vraiment attendues, du coup. Mmh. Et d'ailleurs, quand il a appris la nouvelle, parce que je me souviens, à ce moment-là, il était à Nice en déplacement. Et je devais avoir les résultats de la prise de sang est un truc pour te connecter sur Internet. Donc, je lui donne mon code par téléphone, puis je dis à 3, on se connecte. Et puis là, il voit positif. Oh non. Je dis, bah ouais, trop bien.
Exécuté par
qui?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où un mardi sur deux, à partir de 6h du matin, je donne la parole à une femme pour lui faire causer de son expérience de la maternité ou de la non-maternité sous tous les angles. Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation, sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcasts ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez c'est des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. On est de retour avec Delphine, donc salut Delphine.
Salut Fab.
Je dis on est de retour parce que pour les gens qui n'ont pas suivi, tu étais venue avec ton grand fiston, ouais. Jules, qui est ton deuxième enfant, donc c'est ça hein.
Oui, c'est ça, le deuxième.
2/4, qui est ton seul garçon.
C'est ça.
Comme il dit, comme tu lui dis d'ailleurs, t'es mon fils préféré, c'est ça. Et Delphine, merci beaucoup parce que tu m'avais contacté suite à quelques épisodes... d'histoire de Daronne un peu dure et tu m'avais dit j'aimerais bien venir parce que en fait j'aimerais bien donner comment t'as dit ça, t'as sorti une phrase, ça m'a fait marrer, j'aimerais bien donner envie aux futures générations quand même faire des enfants.
Oui, enfin un peu de légèreté, tu vois, que la maternité c'est pas tout le temps hardcore comme on a pu entendre dans certains épisodes quoi. Il y en a, je me suis dit wow, j'y serais pas retourné, tu vois, après
c'est vrai
ouais. Ah ouais franchement
Ouais, je suis d'accord.
Ouais. Alors moi, tu vois, j'avais pas encore les podcasts au moment où j'étais enceinte, mais il existait des forums au féminin, des trucs comme ça. Et j'ai jamais voulu y aller, quoi. Je voulais surtout pas savoir.
Ouais.
Et je voulais que ce soit une vraie surprise, une vraie découverte, quoi. Et toutes les copines qui avaient déjà accouché, parce qu'on était un peu les derniers dans le groupe à pas avoir d'enfants, elles voulaient absolument raconter. Je disais non. Je ne veux rien savoir.
Je t'avoue qu'après, je me rends pas compte de la différence entre, tu vois, d'entendre des gens raconter sur des forums et de lire des gens plutôt raconter sur des forums et de les entendre parler dans un podcast. Je m'en rends pas bien compte. Je suis jamais trop allé sur ces forums non plus parce que pour moi, c'est.
C'est écrit au féminin de toute façon, donc. C'est pour les mamans.
T'as raison. Il était écrit également Magic Maman. Voilà.
Voilà.
Il n'y avait pas Magic Papa.
Voilà. Bah voilà.
C'était pas pour, c'était pas pour moi.
C'était pas pour ça. Voilà.
Ok. Et donc, parce que t'as un peu envie de mettre de la légèreté, ça veut dire quoi exactement?
Bah, dans le sens où tous les accouchements, ils sont pas... sont pas tous de la boucherie comme on a pu entendre. La maternité, ça peut être beau, ça peut être bien vécu, zen. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je les ai vécues, mes quatre grossesses, hyper zen. J'étais trop contente d'être enceinte. Quand j'entends certaines mamans qui disent « Oh, c'est horrible, vivement que j'accouche, j'en peux plus !» Alors que moi, je voulais absolument les garder, quoi.
Ah, t'aurais voulu...
Ah ouais, les garder le plus longtemps... Non, non, mais le plus longtemps possible au chaud, quoi.
Ça te ferait du taf aujourd'hui avec quatre.
Ah oui, non, 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 mais... Non, mais du coup, tu vois, c'est plus léger. Et puis après, t'entends aussi les parents qui te disent « Oh, moi, il a pas fait ses nuits avant 2 ans. »
Ah ouais, alors toi, apparemment... Mais bon, est-ce qu'on part du principe que quand même, t'as une expérience très particulière ?
Bah peut-être, oui, sûrement.
Parce que, donc moi, là, j'en suis à... Si je cumule histoire de daron, histoire de daronne, plus de 200 témoignages, je crois que c'est la première fois que j'entends que tes enfants ont fait leur nuit...
À la maternité.
Dès la maternité.
Mmh. À tous. Puis des longues nuits.
C'était, incroyable.
Moi, je suis donné la dernière tétée à 19h et on les réveillait à... Alors Maxime, c'était le pire, hein, la première. À 10h du matin, il fallait qu'on aille la secouer. Et... Mais on a eu très très peur. Hein, la première nuit à la maison, on s'est dit, purée, moi je veux pas y aller, c'est sûr, elle va être toute bleue. Quoi. Mmh. Et c'est pas normal qu'elle dorme autant. Ou alors nos potes nous ont enfumés sur les nuits. Oui. Mais non, non, il y a vraiment des très gros dormeurs. Alors moi, j'étais aussi une grande dormeuse.
Il y a un truc génétique derrière.
Ouais, je crois. Ma maman me disait qu'à l'école maternelle, en grande section... Il me réveillait pour l'heure des mamans. Donc,
ah ouais.
J'ai rien vu de la maternelle. Je crois.
Tu roupillais toute la matinée ou
toute l'après-midi, tu sais. Ouais. Comme les petits, on les met à la sieste. Bon, alors à notre époque, on avait encore le choix. Si l'enfant avait envie d'aller dormir, il pouvait dormir. Et moi, jusqu'à la grande section, je dormais, on me réveillait pour l'heure des mamans.
Tu roupillais, quoi.
Ouais, voilà, j'avais besoin.
Toute l'après-midi.
Ouais.
Ok.
Donc voilà.
Déjà, rien que ça, en fait, ça te change complètement l'expérience de la maternité. Parce que
clairement.
Tu dors, quoi. Enfin, oui. D'ailleurs, tu sais même pas ce que c'est finalement.
Peut-être non. Vraiment. Non, on a vraiment connu. Non, mais sans rire. Mm. Je crois que la première nuit où on a été réveillés, c'est quand Maxine est rentrée à l'école et on lui a parlé du loup en classe de maternelle. Et elle a eu peur, tu vois. Elle a fait un petit cauchemar. On s'est dit. Oh c'est horrible de se réveiller la nuit. Quand tu vas te recoucher, t'as plus envie de dormir. Mais vraiment, enfin, je les compte sur les doigts de la main, le nombre de fois où on a été réveillés. Et c'était après 3 ans. Ouais.
Et pour les 4, pareil.
Ah ouais, pareil, pour les 4. Ouais.
Incroyable.
Ouais.
Vous en parliez à vos potes ?
Bon, oui, ouais, ouvertement. Ouais.
Parce que je sais qu'il y a une forme de... Tu vois, de jalousie, quoi, qui se crée.
Ah, bon, les autres étaient déjà passés avant nous, tu vois. Nous, on était un peu les derniers à la traîne, donc... C'est aussi pour ça qu'on les a enchaînés, hein, parce que les 3 premiers en moins de 3 ans, c'est parce que, tout roulait, quoi.
Oui, parce que, donc, ta fille est née à 19, c'est ça ?
Oui.
Donc, Jules, il a bientôt 18, là. Mmh. Et
disons, elle a 17, et puis la petite dernière a 11 ans.
Waouh.
Voilà. Ouais. Voilà.
Ça rigole pas.
Non.
On en reparlera peut-être un peu après, mais effectivement, là, t'en as 2 sur 4 qui ont quitté le foyer, là. Mmh. Ils sont partis faire leurs études.
Ouais. Je suis maman à mi-temps.
Tu te dis vraiment ça ?
Bah ouais. J'ai vraiment beaucoup moins de choses à faire quand même. Ouais. Ouais.
J'imagine à quel point ça doit te changer la vie.
Ouais, ouais. Encore du mal à admettre, mais.
C'est vrai ? Depuis septembre, là.
Mmh. Ouais, ouais.
C'est encore dur ?
Ben oui, parce qu'avant, je me levais tous les jours, tu vois, à 5h15, 5h30 pour tout préparer.
Wow.
Et là, maintenant, je mets le réveil à 7h. J'ai l'impression d'avoir fait une grasse matinée tous les jours, quoi. Donc,
c'est pas simple d'appréhender le vide ?
Ben non, je pensais que ce serait... Enfin, c'est plus difficile depuis qu'il y en a deux parties.
Oui, tu veux dire que l'année passée, il y avait que ta fille aînée qui était partie... de la maison, et là t'as...
Ouais, là, j'en ai deux. Il y en a un qui prenait beaucoup de place.
Tu parles de...
J'ai dit un.
Donc, Jules, je le rappelle, je mettrai le lien dans les notes si vous voulez aller écouter. C'était très cool d'avoir cette discussion mère-fils avec ton grand zozo. J'aimerais bien savoir d'où vient ton désir de maternité.
Alors moi, je crois que j'en avais pas au début, puisqu'avec ma sœur, on est très proches aussi, et on se disait, nous, on fera pas de bébé, ça fait trop mal, mais par contre, on se mariera pour mettre notre liste de mariage chez Habitat. tu vois, on devait avoir 10-12 ans, c'était la référence. Mettre sa liste de mariage chez Habitat. Mais surtout pas de gosse. Hein.
Ça vous venait d'où à 10 piges?
Je sais pas. J'en sais
c'est
rien.
Très bizarre.
Bon, puis finalement, tu vois, on y est arrivé quand même, puisque elle aussi, elle en a deux et moi j'en ai quatre. Mais bon, c'est rigolo.
Ok, donc pas. En tout cas, à 10-12 ans, c'était.
Ouais, non.
Vous aviez pas, en tout cas, t'avais pas la fibre maternelle comme il y a des mamans parfois qui disent. Moi, j'ai toujours su que c'était ça que je voulais, quoi.
Non, par contre, j'aimais beaucoup les enfants puisque après, tu vois, quand j'étais au lycée, je faisais des babysitting tout le temps. J'ai passé le BAFA, j'ai fait plein de colos.
Type BAFA, voilà. Meilleur truc.
Voilà. Donc j'ai fait plein de colos, même à l'étranger. J'en faisais l'hiver, l'été. Enfin voilà.
Ah ouais.
Ouais. Donc j'étais à fond.
Mais tu faisais ça pour gagner de l'argent ou parce qu'il y avait des enfants dedans?
Non, je faisais les deux.
Ok.
En fait, parce que je faisais sur mes 2 mois de vacances, je faisais un mois dans la grande distrie pour me faire des sous et le deuxième mois en colo parce que c'est pas là où on gagne le plus d'argent non plus, mais parce que j'aimais bien quoi, encadrer et puis animer. Donc voilà.
Ok. Et ton envie d'enfant alors? Elle se pointe quand?
Bah, je sais pas trop.
Ton désir de maternité?
En fait, j'arrive pas à savoir exactement quand, tu vois.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bon, c'est sûr qu'à cette époque-là, au lycée, je commençais à bien aimer les gosses, enfin, à peut-être me projeter, mais j'avais pas le mec avec qui les faire, quoi.
Ce qui est toujours une bonne idée.
Bah oui, c'est beau mieux. Surtout que mon mec m'avait dit, alors moi je te préviens, c'est 4 ou 6, parce que je déteste les fratries de 3, parce qu'il y a toujours 2 contre 1. Mm. Et moi je viens d'une fratrie de 3, lui de 4, donc c'était hors de question qu'on en fasse que 3.
Et
quand
2?
On a. Et quand... Et ah 2, non, non, c'était 4 ou 6.
Parce que 2 c'est 1 contre 1.
Non, bah non.
Ça marche.
Non. Okay. Non, c'était pas possible.
Ah donc tu savais. Mais et toi, tu avais une idée plus précise ou...
Non, bah moi, ça ne me dérangeait pas. Je m'étais dit, bon, on verra, commencer avec un, puis avec deux, et puis voilà.
Parce qu'attends, il y a quand même une grosse différence non, d'organisation entre 3 et 4, je crois.
Bah nous, on n'a pas trop... On n'a pas trop vu le truc. Enfin, il y en a beaucoup qui te disent entre 2 et 3. Et je me souviens d'une seule réflexion de Thomas, c'était de dire...
Ton compagnon, ton mari.
Quand on partait, par exemple, au marché et qu'il partait qu'avec les 3, il me disait « Ah oui, en fait, 2, t'en as un dans chaque main, mais le troisième, ben, tu sais plus où le mettre, quoi. Tu le mets dans la poussette.
» Ok. Mais parce que, tu vois, j'avais en tête un peu ce truc de « Ok, faut changer... » Enfin, quand tu passes de 3 à 4, faut changer de bagnole, faut changer... Enfin, d'un coup d'un seul, c'est potentiellement une chambre en plus, etc., quoi. C'est...
Ouais.
Mais bon.
Alors nous, c'est plus parce qu'on avait les 3 rapprochés que c'était, c'était, enfin pas compliqué, mais enfin en termes de logistique, tu vois, on avait tous les 2 dans nos bagnoles 3 sièges auto, quoi.
Ouais.
Donc.
Wow.
Après, quand la petite dernière est arrivée, on avait plus de sièges auto pour les grands, donc.
C'était plus simple à gérer.
Ouais, c'était plus facile, je crois. Mais parce qu'elle est arrivée en décalé, quoi.
Elle est arrivée en décalé. Dernière.
Ben, ça devait être la deuxième fournée des 6. Mais on s'est arrêté.
Et à un moment donné, vous vous êtes dit, c'est bon.
Non, mais au bout de trois, Thomas m'a dit, bah, moi, en fait, je trouve ça génial. On a un super équilibre. Ils font tous la sieste en même temps. On peut dormir aussi, nous aussi. Enfin, il dit, qu'est-ce qu'on va aller se mettre une balle dans le pied en faisant un quatrième, quoi. Et là, moi, je lui ai dit, mais attends, moi, enfin, j'ai pas vécu la dernière grossesse.
Comme si c'était la dernière,
voilà.
C'est ça.
Si c'est hors de question, quoi. Je disais, c'est pas possible, fallait me prévenir avant, quoi.
Ah ouais, parce que lui, il a changé d'avis en cours de route.
Ouais, au bout de trois, il s'est dit, stop, c'est génial. Il est super entente. Bon, voilà, donc qu'est-ce qu'on va aller. Tu vas foutre le déséquilibre, quoi. Mais moi, j'ai dit, ah non, mais là, ça va pas être possible du tout.
Et donc, en fait, comment ça s'est passé, t'as mis. Parce que là, c'est ça, il y a 6 ans d'écart entre les deux.
5 ans entre le dernier.
T'as mis quelques années avant de le. Avant de le faire changer d'avis, ou comment ça s'est passé entre vous?
Ouais,
finalement, il a changé lui aussi d'avis, il s'est dit non, mais en vrai.
Alors, la petite dernière est arrivée sous pilule.
Ok. Ah.
Voilà.
C'est des choses qui arrivent.
Voilà. Et qui n'étaient pas vraiment attendues, du coup. Mm. Et d'ailleurs, quand il a appris la nouvelle, parce que je me souviens, à ce moment-là, il était à Nice en déplacement. Et je devais avoir les résultats de la prise de sang est un truc pour te connecter sur Internet. Donc, je lui donne mon code par téléphone. Puis, je dis à 3, on se connecte. Et puis là, il voit positif. Oh non, non. Je dis, bah ouais, trop bien. Il dit, ah non, c'est pas possible. Je dis, bah si, tu vois.
Tu vois, bon. J'avais bien dit que tôt ou tard, il y en aurait.
Bon, finalement, il regrette vraiment pas. Mm. Ce qu'il avait peur, c'est qu'elle n'ait pas sa place, tu vois, dans la fratrie, parce qu'elle arrivait avec évidemment beaucoup plus d'écart. Et alors, elle nous démontre encore tous les jours qu'elle a bien sa place. En tout cas, elle l'a trouvée.
Comment elle le démontre?
Ah, bah, elle est au centre de tout.
Ah ouais?
Mmh. Ah ouais.
La petite dernière.
Ah ouais, ouais, elle est incroyable.
Comment elle fait?
Elle est chiante. C'est ce que dirait Jules. Non, mais elle chante tout le temps, elle a réussi à trouver sa place, tu vois, auprès de chaque frère et sœur, quoi. Je pense que si tu demandes à Lison quel est son frère ou sa sœur préférée, bah, c'est Alix, c'est la petite dernière. Jules, c'est pareil. Maxine, elle est moins démonstratrice, mais je pense que oui, la petite dernière, tu vois, c'est un petit bébé, quoi.
Ah ouais.
Mais elle a bien trouvé sa place, ouais.
C'est intéressant parce que tu pourrais te dire, ok, à 5-6 ans d'écart, à cet âge-là, c'est quand même beaucoup, quoi. Tu vois, il y a un peu un truc de ouais. Bon, bah, t'es un bébé, quoi.
Et alors, Jules était trop négatif. Content ouais. De jouer à la poupée. Il l'avait tout le temps dans les bras, il a changé, il lui donnait le biberon. Enfin,
ah ouais.
Ah ouais, il était incroyable. Dès le deuxième jour, il l'avait dans les bras, il marchait avec dans la maison. J'avais une copine qui était là. Oh, ton fils, il s'est levé, il a le bébé dans les bras. J'ai dit, oui, t'inquiète, il gère. Ouais,
parce qu'il avait quoi, il avait 7 ans, c'est ça, quand elle est née.
Il avait 6 ans.
6 ans.
Mmh. Ouais, ouais. Mais il était très très fan des bébés et il gérait très bien, donc on avait
et tu pleine confiance.
Ah ouais, ouais, à fond. Ouais. Bah, à ce moment-là, Thomas, il n'était pas là, donc on a déménagé du nord vers la région parisienne à ce moment-là, donc quand j'étais enceinte. Donc il est revenu 2 semaines avant le terme pour dire si jamais ça arrive avant, ben je suis là. Mmh. Et ça tombait bien parce qu'elle est arrivée un petit peu avant. Et après, il est tout de suite reparti en région parisienne et rentré que les week-ends. Donc moi, j'étais avec les 4. Le déménagement a organisé.
Oh, waouh.
Et puis, en fait, là, c'est Thomas qui est tombé malade parce que alors son thérapeute lui disait que souvent, tu vois, on avait comme un trépied qui est la famille, le boulot, les amis. Et que quand on cassait un des pieds du tabouret, quoi...
On se cassait la gueule.
On se cassait un peu la gueule. Et lui, en fait, a perdu les 3 d'un seul coup puisqu'il a changé de boulot. Donc, il était en région parisienne. Il n'avait plus sa famille et il n'avait aucun ami là-bas.
Il n'avait plus sa famille parce que... Oui.
Bah, nous, on était restés dans le nord.
Ah, oui, oui.
En attendant qu'il ait sa période d'essai, etc.
Ça l'a rendu ah, malade,
oui.
C'est ça?
Oui, bah, il faisait des crises de panique. Il n'était pas bien du tout. Et donc, moi, je devais le gérer en plus le week-end. C'était une hantise, en fait, qui rentre. Parce que je me suis dit, oh putain, moi, j'ai la petite qui n'avait même pas un mois, tu vois. Et lui, il était en panique. Il arrivait, des fois, elle pleurait, puis il me fait « Mais je la connais pas, celle-là, ouais. Je sais pas comment elle fonctionne, pourquoi elle pleure ?»
Je connais pas ça.
Mais non, c'est vrai, il dit. Ouais. Et ouais, donc là, c'était un peu chaud. Gérer les quatre, plus le déménagement et tout.
Et plus le mari.
Ouais, plus le mari. Bah, c'est mon cinquième enfant, je le dis souvent.
Out.
Mais il est OK avec ça.
Il est OK avec ça.
S'il a découvert, grâce à la paternité, qu'il était TDA, comme sa fille.
Ouais.
La numéro 3.
Grâce à la paternité ?
Bah oui, parce qu'on l'a découvert pour Lison. Et puis, comme on nous a dit que souvent, c'était un peu... dans les gènes, on s'est dit, bah tiens, lequel de nous deux? Puis tout ça a été évident pour tout le monde. Donc, ouais.
Donc TDA, qui est un trouble de l'hyperactivité, c'est ça?
De l'attention.
De l'attention.
Sans hyperactivité.
Sans hyperactivité, pardon, oui.
Enfin, pour notre
ça
cas.
Ça ne marche pas, TDA, oui.
Non, TDAH.
TDAH. TDAH. Moi, j'avais TDAH en tête, voilà.
Ouais.
Ok.
C'est bien ça. Mais nous, on n'a pas l'hyperactivité. Donc, voilà.
Et ça lui a fait quoi?
Bon... Alors, comme disait souvent Jules, il n'a pas d'avis. Non, mais voilà, en fait, il pense qu'il l'a toujours eu en lui et que bah, comme on ne mettait pas les enfants dans des cases dans notre génération, ce qui a été le cas du coup pour Lison.
Fallait s'adapter, quoi.
Voilà. Mais c'est vrai qu'on là, on a retrouvé ses bulletins et c'était Thomas a choisi la meilleure place au fond de la classe, proche du radiateur et on l'entend pas, tu vois. Enfin, et finalement, oui, c'était ça. Mmh. Il était dans sa bulle.
Parle-moi de tes grossesses. Toi qui disais que c'était super.
Alors moi, j'ai eu des grossesses hyper zen. J'ai pas été malade jamais. J'ai pas pris énormément de poids. Enfin, tu vois, c'était vraiment trop bien. Il y a juste les étés, puisque j'ai deux filles qui sont nées l'été où c'était un peu caniculaire et où là, c'était un peu chaud pour les nuits. Mais voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu le seul truc, quoi. Après, je suis allée, tu sais, au cours d'accouchement, là. Bon, j'ai fait le premier, j'ai dit, bon, c'est bon. Ça m'a pas du tout plu.
Ah, t'as pas suivi ?
Bah, j'ai suivi pour le premier, tu vois. Et après, j'ai fait du chant prénatal. Alors ça, par contre, j'ai adoré. J'ai fait ça pour Alix, la petite dernière.
Ça consiste en quoi ? Ça consiste à chanter, à sentir que ça vibre dans ton corps, etc. C'est ça ?
Oui, ça apprend aussi des comptines à chanter à l'enfant. Okay. C'est le mettre dans un milieu un peu musical. Et puis la prof nous avait dit, vous verrez, quand le bébé va naître, au lieu d'avoir les poings serrés, comme tous les bébés font... il aura les doigts ouverts comme des antennes. Moi, je l'ai regardé, j'ai dit, ouais, c'est ça, attends, tu nous la fais pas, quoi. Et un jour, il y a une fille qui est revenue, donc elle avait accouché, elle est revenue au cours de chant prénatal pour présenter son bébé, et puis bon, on commence à tout chanter, les petites berceuses qu'on avait apprises et tout, et là, le gamin, ch'ting, les doigts en éventail. J'ai là, waouh. Et finalement, c'est vrai que je pense qu'Alix, elle a vraiment été baignée dans la musique très tôt. Donc d'ailleurs, elle chante tout le temps. Mmh. C'est la seule qui est restée musicienne dans la famille, puisqu'on les a tous mis sur un instrument et c'est la seule qui poursuit. Et quand je jouais, moi, puisque je suis pianiste, dès que je jouais, elle s'arrêtait de pleurer. C'était instantané. Après, ils t'apprennent, tu vois, des petites balançoires, des choses comme ça, des façons de bercer l'enfant... qui font qu'il va retrouver en fait la même position que dans ton ventre et la même sérénité, quoi. Et du coup, il s'arrête de pleurer. Et je l'ai testé sur plein de gamins et ça marche du feu de Dieu.
Ce balancement, tu veux dire, ce moment...
Bah, cette balançoire avec une façon de chanter proche de la tête de l'enfant. Mmh. Elle nous avait fait faire un test, c'était de chanter en mettant ses lèvres sur un ballon de baudruche. Tu vois, et du coup, tu sens les vibrations dans le ballon de baudruche. Et elle disait, c'est la même chose pour votre enfant. Donc, si vous chantez avec les lèvres sur son front, juste, tu vois, faire et ben, ça va l'apaiser beaucoup plus que si vous chantez à côté de son oreille ou si vous mettez de la musique dans la pièce, quoi. Et je l'ai vérifié à chaque fois. Ça les calme.
C'est trop bien les vibrations, hein.
Ouais, c'est incroyable. Puis on avait appris à faire les sons graves pour l'accouchement. Donc où elle nous avait dit, vous verrez, c'est un antidouleur et puis ça permet au bébé de descendre. Et donc moi, je l'ai fait.
Sans grave, ça fait vibrer le ventre plutôt. Ouais.
Et ça, je l'ai vraiment fait. Ouais. D'ailleurs, j'ai été la risée de deux stagiaires en puéricultrice. Parce que j'étais en train de faire mes sons graves dans la chambre en attendant, tu vois. Et puis il y a deux petites minettes qui rentrent et puis elles font... c'est quoi ce bruit? Puis là, mon mari qui leur montre, il dit, c'est ma femme, elle fait les sons graves. Et là, elles ont explosé de rire. Mais tu sais, elles n'ont pas pu se retenir, quoi. Et là, mon mari, pareil, il a explosé de rire. Il disait, moi aussi, ça me fait rire, mais j'osais pas trop parce que bon. Et en fait, j'ai vraiment senti Alix descendre à deux moments. Vraiment, tu sais, le décrochage, quoi. Incroyable. Donc ça, ça m'a bien aidé pour le dernier accouchement.
Et ça matchait. Tu chantais avant ou alors c'est une...
Oui, non. Ouais, j'étais dans une chorale, mais j'avais été virée. Parce que c'était attention, chorale de jeunes, c'était jusque 25 et j'avais plus l'âge.
C'est vrai.
Ouais. Bon, en principe, tu vois, c'est 18-25, donc c'est tes études, pendant tes études. Ouais. Là, moi, j'étais plus dans mes études, j'avais 27 ans. Chut, hop.
Ah, et t'as pas retrouvé d'autres chorales?
Non, j'avais pas retrouvé un truc qui me plaise vraiment.
Ok.
Donc voilà.
Donc tu joues du piano et tu chantes?
Ouais.
Trop bien. et alors, est-ce qu'il y a un moment, je sais pas, je vais pas te demander de te raconter tes quatre accouchements, mais est-ce qu'il y a eu des moments particuliers que tu gardes en tête?
Alors, Maxime, ça a été très long. Ouais. C'était la première. Donc, ça a duré. J'ai fait 25 heures au total. Donc, très long en travail. Et puis, en fait, donc j'avais des contractions toutes les 4 minutes, mais ça ne faisait pas avancer le travail. Ça ne faisait pas ouvrir le col. Donc, ils m'ont renvoyé à la maison, au secours.
Incroyable.
Et puis, bah, je suis revenue après. Mais bon. Et donc, toutes les 4 minutes, je broyais le doigt de Thomas. et là, je trouve que j'ai pas été bien accompagnée, tu vois, par les filles qui sont dans les maternités, qui auraient pu m'aider. À, je sais pas. Maintenant, on entend plein de choses maintenant, d'être sur un ballon. Non, en fait, j'étais prostrée dans un lit sous monitoring et je serrais les dents toutes les 4 minutes, quoi.
Mais t'avais pas fait la préparation.
Bah la préparation,
ça aurait pu t'aider, non ?
Si, je l'avais faite pour Maxine, mais il y avait rien en fait. Okay. C'était faire le petit chien et tout, le truc. Okay. Pour la fin, quoi.
Ouais.
Mais le travail long comme ça... bon,
respiration, voilà. De sophro, voilà. Etc. Mmh. Ouais.
Bon, alors par contre, quand j'ai eu la péridurale, c'était alléluia. J'ai retrouvé le sourire.
Oui, la drogue.
Voilà, c'est ça. Après, bah, pour Jules, il est arrivé hyper rapidement, parce que c'était déjà tracé. On m'a juste stoppé un moment, parce qu'on m'a dit, est-ce que vous voulez accoucher avec votre gynéco? Je dis, bah oui, idéalement oui. Et il m'a dit, bah par contre, elle commence lundi matin, donc c'était à 7 heures. Donc j'ai dit, ok, j'attends. Donc ils m'ont mis une perf, tu sais, pour faire attendre un peu. Et puis en fait, ils sont venus me revoir en me disant, alors en fait, c'est pas 7 heures qu'elle commence, c'est 8 heures et demie. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je dis, bah non, on va pas attendre non plus. Donc du coup, j'ai pas accouché avec elle et j'ai accouché avec un homme qui était réputé pour être horrible. Ce qui s'est avéré être vrai.
Ah, et horrible comment?
Bon, tu vois, des réflexions. Donc moi, j'étais sous péridurale et puis je criais. Il me fait, non mais pourquoi elle crie, elle? Elle est sous péridurale. Je crie si je veux, quoi.
Wow.
Tu vois, t'as même besoin de lâcher, c'est pas parce que t'as mal,
ben oui.
Forcément, que tu cries. Donc ça, c'était la première réflexion. À la deuxième, Thomas, il m'a dit, mais t'avais les pieds dans les étriers, pile poil bien placés pour lui en mettre une.
Bah.
Bon, j'ai pas osé. Et puis après, tu vois, quand il vérifie qu'il sort le placenta et tout, il nous avait déjà mis Jules sur moi. Donc, bah, nous, on regardait le petit, il fallait qu'on choisisse un prénom. Et puis, il nous parlait. En fait, on écoutait que d'une oreille, tu vois. Et puis, à un moment, il s'arrête, il dit, il faut le dire si je vous fais chier, là. Oh, je suis en train de vous parler, là. Alors, bon, ok.
Oh, le gros con.
Ouais, voilà. Bon, j'étais contente que...
C'était un vieux ou...
Non, mais il était connu pour ça,
pour
d'être... ouais. Okay. Tu vois, le mec, rien à foutre.
Eh ben, dis donc.
Donc voilà, ça,
c'est un métier qui vous plaît, hein,
ouais,
vraiment.
Ouais, c'est ça.
Peut-être des familles à... Franchement, c'est le plus beau moment de leur life.
Ouais, ouais. Ouais, ouais, non, mais incroyable. Là... heureusement, l'équipe autour de lui était top. Mm. Mais franchement, lui, bah, tu sais, il vient juste à la fin, quoi.
Ouais, ouais.
Parce que c'est les sages-femmes qui font tout le taf, et puis...
Il vient être un connard voilà. Dans les dernières minutes. Voilà. Merci pour ça.
Mais je pense que c'était la fin de sa garde, tu vois. Mm. Donc ça devait le faire chier de venir encore une fois.
Cool. Rien demandé, toi.
Ouais.
J'imagine.
Pour Lison, alors lui, il m'a piqué 7 fois pour la péridurale.
Oh la vache.
Donc j'avais un placard...
De bleu.
De bleu dans le dos. Donc là, j'ai eu du kiné pour le placard que j'ai eu dans le dos. En plus, la péridurale a marché qu'à moitié et finalement, j'ai été contente parce que je l'ai vraiment senti sortir. Tu sais, parce que souvent, on dit quand t'as une péri, tu sens pas le bébé. Il y en a qui ne la veulent pas pour ça. Et finalement, j'étais contente d'avoir au moins une fois l'expérience. J'ai vraiment senti la petite épaule qui passe et tout. Et bon, c'était sympa.
Si tu le dis, je te crois.
Ouais, ouais. Non, mais franchement, moi, j'ai rien eu.
Le genre d'expérience que je veux.
J'ai pas eu d'épisio et tout ça. J'ai eu des bébés qui faisaient 4 kilos quand même, quoi. Donc, j'ai vraiment accouché. J'ai même une amie belge qui m'a dit un jour, mais tu es faite pour pondre. J'ai trop bien.
Mais c'est vrai que, sans pour autant dire pondre, parce que c'est pas forcément... Mais j'ai un peu la sensation qu'il y a un truc très naturel chez toi de... physiologique, quoi, tu vois ce que tu racontes, ouais. C'est t'es faite pour être maman, quoi,
peut-être. Non, je puis sais pas. Bah, la petite dernière, tu vois, c'était comme une lettre à la poste. C'était trop drôle parce que juste à côté de moi, il y a une dame qui accouchait, et c'était son quatrième aussi, et elle hurlait, mais oh, on se regardait avec toi, c'est là, oh là là là, qu'est-ce qui se passe à côté et tout. Puis il y a l'infirmière qui dit non, rassurez-vous, tout va bien, elle est sous péridurale, mais c'est son quatrième, ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas accouché, donc elle a besoin de crier, de lâcher. On dit ok et tout. Et après, l'infirmière revient, puis elle fait bon, alors en fait, son bébé faisait 5,8 kg, donc oui, elle avait le droit de crier. 5,8 kg.
Oh la vache.
Tiens, ah oui.
5,8 kg, ouais. Mais qu'est-ce que c'est, enfin...
Bah, c'est un bébé de 6 mois, quoi. Enfin, je sais pas, peut-être pas 6 mois,
non,
mais...
peut-être pas, mais...
Enfin, tu l'habilles en 6 mois.
Un beau bibé, quoi.
Mais bon, donc tu vois, c'est l'expérience que je garde de l'accouchement d'Alix, parce que j'ai vraiment cette vision de cette femme qui accouche à côté de moi, et en fait, bon, bah, nous, on a rien vu passer, quoi. Forcément, elle faisait que 3,9 kg, donc... Donc voilà.
Ok. Je sais pas de quoi tu avais envie de parler d'autre, en fait, tu vois, dans ton expérience de maternité.
Il y a un truc que j'avais jamais entendu dans tes podcasts, c'est l'allaitement mixte.
Ouais.
Je t'en avais parlé une fois. Et en fait, moi, je connaissais pas non plus, évidemment, puisqu'on nous avait appris dans les cours soit allaitement, soit biberon. Et en fait, moi, j'ai pas fait ma montée de lait à la maternité. Donc, à un moment, ils m'ont dit, bah, vous avez pas de lait, c'est biberon. Je dis, bah oui, mais moi j'avais envie de l'allaiter. Donc là aussi, tu vois, entre les équipes de nuit et de jour, au secours, parce qu'on a quand même. On m'a réveillée une nuit pour que je l'allaite, parce qu'ils avaient regardé ce que j'avais noté sur mon carnet, et je l'avais allaité que 4 fois dans la journée, et on m'avait dit c'est au moins 8. Donc la nuit, l'équipe de nuit est venue me réveiller, ils ont réveillé le bébé, donc qui ne se réveillait pas d'ailleurs. Ils l'ont mis à poil pour qu'elle ait froid et pour qu'elle tète. Et ouais, c'était, tu vois, un peu dur, quoi. Et puis, bah, elle a pas tété. Donc, ils ont décidé, on lui donne le biberon. Donc là, moi, j'ai dit non, je veux pas. Donc, on avait appris qu'on pouvait leur donner, je sais plus comment ils disaient, les faire laper, tu sais, comme un petit chat dans un bouchon.
Ouais.
Donc, je dis, bah, non, moi, je veux ça. Mm. Donc, elle m'a regardée en disant, encore une qui a suivi les cours. En levant les yeux au ciel, donc elle est revenue avec un bouchon, et puis bah, la petite, elle ne lapait pas vraiment, tu vois. De toute façon, elle n'avait pas faim, il l'a réveillée exprès pour ça. Puis elle me fait, bon, ça y est, vous avez vu, ça ne marche pas. Paf, elle lui a foutu le biberon dans le bec.
Oh. Bon,
hyper violent. Et puis, bah, en fait, moi, j'ai continué comme ça, c'est-à-dire que je donnais d'abord le sein pour qu'elle continue d'accentuer le truc, quoi, et d'essayer de faire venir le lait. Et puis, je donnais un complément en biberon.
Ok. C'était ta fille aînée, ça, c'est ça?
Ouais. Okay. Mais, et du coup, j'ai gardé ça pour les quatre, parce qu'on a adoré. Je dis « on » parce que Thomas, du coup, bah, il pouvait donner le biberon, qui était tout de suite investi là-dedans. Et puis, ça m'a permis de les allaiter jusqu'à 9 mois, tous les quatre. Donc, je gardais la tétée du matin et du soir. Et contrairement, tu vois, à quelqu'un qui te dit « j'ai allaité mon enfant jusque 9 mois », mais qu'il ne met pas au sein, tu sais, qu'il lui donne par exemple du lait congelé, je trouve que ça n'a rien à voir. Parce qu'à passer un certain âge, en fait, c'est un câlin. C'est plus vraiment... Ils ne se nourrissent pas de ça, en tout cas.
Ouais.
Et moi, j'ai vraiment adoré cette façon de faire, quoi. Donc à chaque fois, je donnais le sein et le biberon. Enfin, par exemple, sein gauche et le biberon. La tétée d'après, sein droit et le biberon. Enfin, on complétait toujours, quoi. Et ça s'est super bien passé. Et d'ailleurs, une fois, il y a une sage-femme qui est rentrée dans ma chambre en me disant « Bah, vous êtes allaitement mixte ?» Je dis « Bah oui, c'était écrit sur la porte de ma chambre, tu vois. » Elle me fait « Bah, vous n'êtes pas musulmane ?» Je dis « Non, pas que je sache. Pourquoi ?» Et visiblement, les musulmans font beaucoup ça. Okay. Beaucoup l'allaitement mixte. Alors, je pense que c'est dû au fait que quand ils sortent, enfin, quand les femmes sortent, elles ne peuvent pas mettre le bébé au sein, tu vois. Donc, elles donnent des biberons quand elles sont à l'extérieur et quand elles sont chez elles, à la vue de personne, elles peuvent allaiter leur enfant. Et c'était vraiment top. Et alors, contrairement à certaines de mes copines qui ont fait de l'allaitement exclusif, moi, j'ai gardé ma poitrine. Parce que souvent, elles perdent la poitrine, tu vois, avec, avec l'allaitement. Moi, j'ai même pris. Donc, j'étais plutôt contente. Tu vois, non, mais après 4 gamins, souvent, tu te dis, bon, ça y est, c'est fini, quoi. Bah non, moi je
qu'est-ce qui est fini?
Bah t'as plus de poitrine. Ah oui. Ils ont tout bu.
Ils ont tout mangé. Ils t'ont mangé de l'intérieur.
Voilà. Non, mais c'est vrai, c'était une remarque qu'on s'était faite avec plusieurs copines et on est deux à avoir fait l'allaitement mixte et on est les deux à avoir encore de la poitrine.
Merci pour ce tips.
Bah écoute.
Ok. Et, mais alors, comment t'as vécu aussi pour... un peu ce marathon, parce que même si j'ai bien compris que vos enfants étaient ultra cool, vous avez quand même fait 3 enfants en 3 ans.
En moins de 3 ans.
En moins de 3 ans. Incroyable. C'était une vraie volonté de votre part de vous dire, ok, on y va.
Bon, au début, on ne savait pas.
Ouais.
Après la première, on s'est dit, oh, bah, elle est hyper facile, on mettrait bien le deuxième en route rapidement. Et
ouais, il n'y a pas tardé.
Ouais, voilà. Et puis après le deuxième, on s'est dit, bah, il est cool aussi, on mettrait bien un troisième. Et là, elle est arrivée plus tôt que prévu, puisque en fait, il y a 18 mois d'écart entre le 1 et le 2 et 16 entre le 2 et 3. Donc, et puis bah, du coup, comme ça s'est super bien passé à chaque fois, voilà quoi, c'est tout roulé.
Ok. Et la vie avec 3 enfants, parce que pour moi, c'est ça aussi, c'est que vous aviez 3 enfants en bas âge finalement.
Oui.
Entre, donc, quand ta fille est née. Et quand ta troisième est née, finalement, ta fille aînée, elle avait 2 ans, c'est ça,
ouais, deux ans et demi. Bah, ça a été un souci pour la nounou, parce que donc, Jules et Maxine étaient chez la même. Et puis quand j'ai dit, bah, j'attends le troisième, elle m'a dit, mais moi, je ne pourrais pas prendre un troisième enfant, s'ils allaient forcément se retrouver tous en même temps chez la nounou. Mmh. Et là, merci le Nord, parce que dans le Nord, on a les TPS, les toutes petites sections. Puisqu'il faut sociabiliser les enfants dès 2 ans.
C'est un truc particulier du Nord.
Ah bah oui, il n'y a que dans le Nord.
Ah bon ?
Ouais. Il n'y a que dans le Nord où tu fais 4 ans de maternelle.
Incroyable, je ne savais pas.
TPS, PS, ouais, MS. Bah, ouais.
Ma fille aînée, elle est à 2 ans, en fait, elle était trop motivée pour y aller. Donc bah, il y a 2 pigeons
là. Ça n'arrive que là-bas.
Ah, je ne savais pas. Ok.
Et donc, bah, du coup, Maxine, on l'a scolarisée en janvier. Et elle n'était même pas propre, tu vois. Donc, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, bon, écoute, là, t'as 3 semaines, tu viens à la maison, t'as 3 semaines, il faut qu'elle soit propre.
Mission.
Parce que en janvier, elle rentre à l'école. Et ça a été un peu un choc pour nous, parce que en fait, on s'était projeté sur faire plein de choses avec elle, tu vois, pour la première fois. Bon, elle n'avait jamais mangé un bonbon de sa vie. Elle rentre du premier jour d'école, elle avait des bonbons dans les poches. Oh non! La deuxième semaine, ils ont fait un cinéma, tu vois. Et je dis, oh, mais non, le cinéma, on voulait l'emmener pour la première fois, nous, tu vois. Bon, puis bah, là, il y avait une séance avec l'école, elle y est allée. Oh, elle était. Bon. C'est allé trop vite, quoi, à ce moment-là. Mais comme ça se passait bien pour tout le monde après, bon, c'était parti, comme sur des roulettes.
Et ça a été. Et t'as la sensation que ça a été pour elle de se retrouver à l'école comme ça des 2 ans
Elle était choyée parce que c'était vraiment la plus jeune de l'école et on était dans une toute petite école, il n'y avait que 3 classes. Donc il y avait une classe de tout petit, petit moyen et moyen grand. Donc tu vois, c'était pas une grosse école où il y a 500 gamins dans la cour, quoi.
Oui.
Donc je pense que ça s'est bien goupillé, quoi. Bon, puis après son frère est arrivé très vite, hein, puisque lui il est rentré en septembre d'après. Donc non, ça s'est bien passé, franchement. Okay.
Plutôt cool.
Ouais.
Très bien. Tes enfants, enfin, donc tu disais tout à l'heure, t'as 2 enfants sur 4 qui sont partis là.
Ouais.
Comment ça se passe? Comment tu vois évoluer ton rôle de maman là aujourd'hui alors que t'as 2 enfants sur 4 qui partent? Tu disais tout à l'heure que tu avais envie de faire plein de choses et tout, et que finalement, tu l'as peut-être dit hors micro. et que, bah, en fait, c'est pas forcément évident de se retrouver avec ce vide-là, alors que pendant toutes ces années, j'imagine que tu as été très occupée avec,
ouais,
avec tes
clients. Ouais, alors j'étais diplômée en logistique, ça aide. c'est vrai. Ceci dit. Non, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que leur papa, sur les 9 premières années, bah, il était à l'étranger toute la semaine. Mmh. Donc il rentrait soit dans la nuit du jeudi au vendredi, soit le vendredi. Donc j'étais toute seule avec les trois toute la semaine. Et moi, je bossais aussi à plein temps, tu vois. Donc on avait une super organisation, une super rigueur. Et dès qu'il arrivait, c'était comme... C'est comme au bowling, quoi. Il foutait en l'air toute l'organisation, parce qu'avec lui, wouh.
Ah ouais.
Bah oui, je vous emmène à l'école ce matin. Bah non, c'est maman. Bah non, aujourd'hui, c'est moi. Trop bien.
Et mais... vous aviez pas discuté ensemble de, ok, maintenant que t'es là, on va... Enfin, quand t'es là, on s'organise autrement?
Bah non, parce que comme ça changeait tout le temps... s'il pouvait emmener les enfants à l'école, il était trop content de le faire au moins une fois, ou aller les chercher, tu vois. Bon. Et ça, Jules, il a eu beaucoup de mal, petit, avec ça, le fait que papa soit pas là. Mmh. Il comprenait pas pourquoi papa rentrait ou pas. Et donc, on avait vu un psy qui nous avait dit faudrait mettre en place un truc pour que, par exemple, il retire. On avait trouvé un arbre, tu vois, avec des feuilles qui se scratchent. On avait mis 5 feuilles. Et donc, le lundi matin, il devait retirer la feuille et puis dire il reste 4 feuilles, donc papa, il rentre dans 4 dodos et tout ça. Et lui, il avait très, très bien compris le concept. Premier jour, il arrivait, il retirait toutes les feuilles de l'arbre et il disait « Papa, il est là !»
Voilà.
Bah non, papa, il n'est pas là.
Triste.
Donc, oui, mais ça se passait bien. Alors après, c'est vrai que les aînés ont fait beaucoup de garderies. Moi, je bossais sur l'aéroport à ce moment-là, donc j'avais 1h30 de trajet le matin, 1h30 le soir. Et du coup, je les mettais à 7h pétantes à la garderie le matin avant l'école, et je les récupérais à 19h-3.
Ah ouais.
Donc c'était
grosse journée.
Ouais, grosse journée pour eux. Et après, j'ai tout lâché. J'ai dit, j'arrête, je fais autre chose. Et là, j'ai vraiment pris le temps de m'occuper d'eux. Et pour la petite dernière, elle a même eu congé parental. Donc,
ouais.
Ouais. Voilà.
Ok. Mais attends, je te posais une question par rapport. Oui, par rapport au
nid vide.
Ouais.
Semi-vide.
Semi-vide.
Ouais, c'est ce que je disais. Donc, hors micro, c'est que quand j'avais les enfants, je trouvais que j'avais le temps de rien faire. J'avais plein de projets. Donc moi, je suis très manuelle, donc j'aime bien faire des meubles, restaurer des meubles, enfin faire plein de choses. Et j'ai été toujours coupée dans mon élan parce qu'il faut emmener Bidule au trombone. Et puis ce week-end, on ne peut pas faire ça parce qu'il y a un tournoi de rugby. Et j'avais jamais le temps de rien faire, quoi. Et donc là, je m'étais dit, oh génial, avec 2 de moins, déjà, je vais avoir 2 après-midi dans ma semaine où je vais pouvoir faire plein de trucs. Parce que j'ai plus la petite à aller chercher à l'école primaire, puisqu'elle est au collège. Ouais. Elle se gère toute seule avec le bus et tout. Génial. Et en fait...
Oui, puis ta troisième aussi, elle est suffisamment grande pour pouvoir se gérer. Quoi.
Oui, puis elle finit à 18h. Donc, tu vois, elle ne rentre pas tout de suite. Et en fait, je suis arrivée à la maison, j'arrivais à rien faire. Je ne savais pas par quel bout commencer, en fait. Donc, j'ai eu un gros temps de allez, là, ça y est, t'as du temps, vas-y, bouge, fais plein de trucs. Donc, c'est pas si simple, en fait, de se dire, ça y est, j'ai enfin du temps.
Ouais, parce que j'ai un peu l'impression que t'as tellement fait de choses autour de pendant toutes ces années que faut se réinvestir pour soi, finalement, c'est du temps pour toi.
Ouais.
Et que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a. T'es pas la première maman à me parler de ça, hein, où il y a un vrai truc de réinvestir du temps pour sa pomme et s'autoriser peut-être même à le faire.
Oui, c'est plus ça, je crois aussi. Ouais.
Se donner la possibilité, l'autorisation de le faire, quoi.
Ouais, ouais. Parce qu'au début, tu culpabilises. Tu te dis, oh purée, je sais pas, je vais faire 1 heure du piano, tu vois. Puis je dis, oh, j'aurais pu quand même faire un bon repas pour ce soir, quoi, plutôt que de décongeler. Des gyoza, quoi.
C'est très bon, les gyoza congelés.
Oui, c'est très, très bon. Non, mais je suis très cuisine. Et du coup, j'ai toujours beaucoup fait. étouffé même, toi, notre pain, enfin tout. Mmh. Et là, les filles, quand j'achète une baguette, oh, bah, on n'a plus le droit au pain frais. Ah bah non.
Et t'es à l'aise avec ça?
Oui. Pain frais. Bon, bah écoute, c'est comme ça.
J'ai joué du piano.
Voilà. Moi, bon, je ne fais pas que ça, mais voilà, j'ai essayé de prendre plus de temps pour moi, mais c'est vrai que c'est pas simple au début.
Et donc là, ça fait maintenant 5 mois que tes deux plus grands sont définitivement partis. Et tu disais d'ailleurs que c'était plus dur d'avoir maintenant ton Jules qui est parti, parce que là...
Je le sens plus.
Il se retrouve à deux, à la place de trois, c'est ça? C'est quoi la différence?
Bah, il prenait tellement de place que...
Ah, Jules.
Marc, ça laisse de la place aux deux autres, parce que le soir à table, maintenant, on peut plus en placer une parce qu'elles nous racontent leur journée, ce qu'elles faisaient jamais avant, puisque avant c'était Jules et Maxine, c'était les débats géopolitiques, ils sont partis tous les deux dans des études là-dessus et ça n'en finissait pas, quoi. Et les deux petites, elles avaient jamais un peu rien à dire, quoi. Tu n'y connais rien, toi.
Ah oui. Ah, c'est bien aussi, hein.
Oui, oui, ça change.
Ouais.
Et
même, j'imagine, pour vous, en tant que parents, c'est cool aussi de peut-être voir vos enfants peut-être sous un autre jour. Il y a d'autres dynamiques qui se créent, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Bon, alors après, c'est des discussions que Maxine et Jules devaient avoir à leur âge, et on ne se souvenait plus. Et on se dit, oh là là, c'est fatigant.
Dans quel sens?
Bah, tu sais, elle te raconte toute sa journée par le menu, ah, quoi. Oui. J'ai commencé, j'avais maths, et puis après, j'avais... Oh, et puis t'as tous les noms des profs qui reviennent 12 fois à table, tu vois. T'en peux plus de madame, je la citerai pas, mais machin.
Donc là, c'est pour ta petite collégienne, pour le coup.
Oui. Elle est très là-dedans.
Oui, elle a besoin de tout raconter.
Oui.
Et donc, faut savoir écouter aussi.
Oui, oui, mais on fait que ça, on peut en placer une, alors. Dès qu'elle parle plus, elle chante, donc voilà.
C'est elle qui chante?
Oui.
Et c'est elle qui continue à faire de la musique, c'est ça, tu disais?
Oui.
Okay. Vous chantez ensemble?
Non, pas trop.
Enfin, tu joues du piano et elle chante? Non.
Non, elle joue du trombone et on fait des duos.
Ok.
Donc ouais, on joue un peu en duo. Et puis Thomas fait du trombone aussi, donc ils jouent tous les deux. Donc ils font de l'orchestre ensemble et puis de la fanfare.
Ah ouais?
Ouais. Et tous les autres ont lâché leur instrument.
C'est quoi les autres?
Alors Maxine, elle fait du piano. Bon, là, c'est plus parce qu'elle est plus, elle a plus de piano qu'elle en joue plus. Jules faisait du cornet à piston. Et Lison faisait de l'euphonium, donc c'est un genre de tuba.
Ok.
Et là, elle a repris cette année, elle s'est mise au saxo. Donc, voilà.
Plutôt les cuivres alors. Plutôt famille cuivre, sauf Maxine, quoi, qui a fait comme sa maman.
Ouais. Puis moi, j'avais commencé la contrebasse et puis j'ai arrêté parce que ça faisait trop. Ça faisait beaucoup de choses.
Tu as fait pouvoir t'y remettre?
Bon, je sais pas. Finalement, ne rien faire, c'est pas mal aussi.
Ah ouais?
Ouais.
T'arrives?
Ouais, mais c'est nouveau.
Ouais. Comment tu fais?
Bah déjà j'ai mal aux pieds donc je peux rien faire. Mais alors prendre un bouquin, tu vois, être dans le canapé. Alors, bon, Thomas dit que je sais pas m'arrêter, que je fais jamais rien, mais si, tu vois, des fois je me pose dans le canapé. Je pense
tu veux
que
dire
j'ai...
que quand tu prends un bouquin dans ta tête, t'es pas en train de rien faire, c'est ça?
Ouais.
Ok. Non mais parce que tu pourrais aussi regarder le plafond.
Ouais, ouais. Non, là, je suis pas à ce point-là. Non, mais déjà, d'avoir mis mes fesses dans mon autre canapé, je pense que je l'avais jamais fait en 10 ans. Depuis qu'on était arrivé en région parisienne, je m'asseyais jamais dans le salon. Ou alors, tu vois, c'était pour raconter une histoire à la petite, ou pour faire un jeu, mais pour ne rien faire, ou bouquiner pour soi, jamais, je crois. Donc
et ça va aujourd'hui? T'arrives un peu plus à le prendre avec tranquillité ou tu culpabilises encore?
Non, là, ça y est, j'ai enfin...
Ça commence à venir?
Ouais, ça vient. c'est long.
Ouais, justement, ça a été quoi le process?
Ben, je sais pas. Je l'ai dit, j'avais commencé en septembre. Bon, il faisait encore beau, j'allais dans le... On a un hamac dans le jardin. Je me foutais dans le hamac.
Bien sûr.
Je faisais rien.
Bah oui.
Puis j'étais, mais purée, mais tu fais rien là, bouge-toi. Là.
Ah, t'es.
Non, je faisais rien. Ouais. Je faisais rien.
Oh, le hamac.
Ah ouais, trop bien.
Bah bien sûr.
Bon, après, quand il a commencé à faire un peu plus frais, il a fallu que je rentre.
Ouais. Si t'as une grande maison, tu peux installer ton hamac à l'intérieur. Hein.
Ouais. Non, quand même pas. Non, mais je fais du canapé. Mmh. Ouais. Mais ouais. Après, quand tu vois tous nos ados là, qui passent leur journée dans leur lit avec leur téléphone, moi, ça, je ne peux pas. Quoi. C'est... Donc, il faut quand même que je fasse quelque chose. Donc, voilà.
Petit à petit.
Ouais.
Tu es en train de t'y mettre.
Ben oui, alors après, tu vois, j'ai pas repris mes projets de meubles et tout ça. Ouais. Parce que j'attends plus les beaux jours, mais j'ai hâte de rebricoler et de faire des trucs, quoi. Bon, là, j'ai recommencé des petits trucs, du béton, j'ai repris le dessin, des choses comme ça.
Du béton ?
Ouais.
Tu fais du béton ?
Mmh.
C'est-à-dire que tu fais du béton,
Je fais des objets en béton.
Ah oui ? Mmh. Et donc, tu fais couler du béton et tout ?
Ouais.
Ah ouais ? Mmh. C'est pas du petit bricolage, quoi. C'est pas ouais, évident de couler du béton pour commencer.
Oui, oui, mais c'est vraiment des petites choses. Des pots de fleurs, ouais. Ce genre de choses. Hein, des petits vases. Je fais ça dans une cuvette. Hein, j'ai pas la bétonnière dans la maison, quand même.
Incroyable. Ok.
Donc, voilà.
Et ça, c'est un peu ça, c'était loisir du moment, quoi.
Ouais, alors moi, j'ai toujours été très artiste de la famille, on va dire. Donc, j'ai toujours touché un peu à tout. Ouais. Et depuis qu'il y a les ateliers We Can Do, je ne sais pas si tu connais.
Non. Ah oui, si, We Can Do, ouais.
Voilà. Ben, j'avais demandé ça à Noël une année, et puis du coup, j'ai fait un premier atelier, et puis un deuxième, et puis là, le béton, je l'ai fait avec Lison à Paris. Et on a adoré, donc on s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas refaire à la maison, tu vois. Donc c'était très sympa.
La classe.
Voilà.
Tu fais plein de trucs de cette.
Ouais, ouais, ouais.
Et comment ça se passe la vie avec tes grands qui sont partis, alors ?
Bah, on les voit moins. Ils rentrent plus trop au bercail.
Ouais.
Ouais. Non, c'est là où on prend un coup de vieux, je trouve. Où tu vois, ils n'ont plus envie de rentrer chez leur daron, leur daronne. Voilà. Alors, ce qui est pas mal, c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure, c'est qu'on les a tout le temps, en fait, par les réseaux sociaux, par WhatsApp, par Insta. On voit leurs stories, on voit où ils sont, au bar. Ah, un match de hockey, avant d'aller au bar. Mais on suit un peu quand même, du coup, de loin. Mais c'est assez sympa aussi de voir que ils s'envolent, quoi. Ils s'émancipent.
Mmh. Mais voilà. Tu dis que pour toi, c'est à la fois sympa et en même temps, c'est un peu... Waouh, ok. Finalement, c'est un peu... le début du reste de ta vie, quoi.
Ouais. Alors après, il y en a qui seront toujours plus proches que d'autres. Tu vois, qui ont besoin de rentrer, avoir les meilleurs plats de maman. Ouais, quand je rentre, hein, tu me fais ça, ça, ça. Et ben,
passer commande.
Ouais, ils passent leur commande. Bon, après tout, j'aime bien, donc ça ne me dérange pas. Mais ouais, c'est sûr qu'ils font leur choix. Ça aussi, parfois, c'est un peu difficile au début.
Dans quel sens ?
Bah, dans tous les sens, tu vois. Quand ils vont faire leur choix de vie, de dire bah, l'année prochaine, j'ai envie de me mettre en coloc. Bon, alors, on a vécu une coloc là, cet été où c'était dégueulasse. Enfin, c'était... On est allé dans l'appart de coloc, quoi. Okay. J'ai dit à ma fille, mais comment tu peux vivre là-dedans quand on t'a pas habitué tu vois, à vivre dans le bordel et la crasse, quoi. Ça ne dérange pas. Alors là, tu te dis, ah ouais, d'accord. J'ai tout loupé ou quoi? Si, ben là, tu vois, moi, je ne mettrais même pas un pied dans la baignoire. Quoi. Oh, mon Dieu, on s'y fait. Hein. Bah non, tu prends une éponge. Enfin, tu vois, tu fais ce qu'il faut. Et donc, c'est là où tu te dis, bah tiens, il y a 2 ans, elle n'était pas comme ça à la maison, tu vois.
Elle aurait nettoyé.
Ouais. Puis bon, elle n'aurait pas fait ce choix de... d'être dans un appart crade, c'est choix.
Ok. Et t'as du mal à comprendre ça ou alors tu te dis ok c'est peut-être juste un passage. Tu vois parce
non, que. Disons que ça me fait plus alors pas de la peine mais tu vois je me dis oh purée on les a pas éduqués comme ça quoi. Tu sais d'être hyper nonchalant là-dessus ou alors tu vois on les a éduqués à gérer un budget et tout ça. Ben elle en fait elle gère son budget uniquement pour avoir du fric pour sortir. Donc, elle est prête à pas bouffer ou mal se nourrir pour avoir plus de sous pour sortir, quoi.
Et tu crois pas que c'est une phase, tu vois, où elle a gagné, entre guillemets, de la liberté, de, justement, cette liberté de pouvoir faire ce qu'elle veut, et que finalement, c'est aussi une façon de, comment dire, de se départir de l'éducation que vous leur avez offerte,
ouais,
pour revenir peut-être plus tard en se disant, finalement, c'était pas si con de pouvoir se baigner dans une baignoire qui est pas dégueulasse.
Bah, je sais pas.
Ouais.
Je sais pas, on verra comment elle va évoluer. Mmh. Bon, là, elle, tu vois, elle est en Erasmus, elle vit sa plus belle vie. Ouais, ouais. Voilà.
Franchement.
Ils sortent tout le temps. Ils n'étudient pas.
Bah oui. Quel incroyable cadeau.
Mmh. Donc voilà.
Merci l'Europe.
Ouais.
Ok. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler ?
J'avais pris, des notes. C'est sur les règles qu'on se donne dans la famille, le cadre en fait, qui a évolué. Parce que on avait donné telle règle, puis le temps change, ouais, les enfants changent, mmh, et du coup on n'édicte plus les mêmes règles. Et on a eu des réflexions, notamment de disant, ouais, vous faisiez pas ça du temps de Jules, de Maxime. J'ai dit, bah oui, mais tu sais, nous on est parents, on nous a pas donné le mode d'emploi. Mmh. Et puis on fait des erreurs comme tout le monde, donc parfois on doit, ouais, rectifier le tir, quoi. Donc on fait pas pareil et t'auras pas les mêmes règles que Maxine et Jules, et ça change comme les temps changent. Et donc là, la petite qui est sûre qu'elle va avoir son téléphone en cinquième comme ses frères et sœurs, elle l'aura pas en fait, et elle va tomber des nues parce qu'elle est persuadée qu'elle l'aura, quoi. Et moi, je ne suis pas du tout pour, parce que je m'aperçois qu'une fois qu'ils en ont un dans les mains, ils font que ça. Mmh. Même quand tu arrives à les limiter, parce qu'on les...
Contrôle parentalise.
Voilà. ils ne sont pas toujours... ils n'arrivent pas à s'en détacher. Ils ne font plus rien d'autre, quoi. Donc là, on a changé les règles et ça n'a pas beaucoup plu. Mais voilà. Je pense que c'est nécessaire, en fait, que... Alors, le cadre, tu vois, il a toujours été, j'ai envie de dire, un peu plus laxiste avec Maxine, parce que super obéissante, tu vois, l'aînée, c'est celle qui doit...
Elle n'a pas le choix.
Voilà.
En tout cas, souvent, les aînés, ils sont un peu
Voilà. Jules a beaucoup essayé de repousser les limites, d'ouvrir le cadre et d'aller hors cadre. Pour savoir si on allait le recadrer. Mmh. Donc ça, lui, il a fait ça très jeune, hein, en CM1, CM2, où il a été infect. Mais on a tenu bon, et c'était bien. Et là, il y a Lison qui essaye de passer à travers le cadre. Donc là, elle a 17 ans, elle est en pleine crise d'ado, et on ne l'avait pas vécu, en fait, avec les autres. On a changé les règles. Et voilà.
Oui.
On est des mauvais parents, évidemment, tu vois.
Oui.
Ouais, c'est dégueulasse. Ouais, ok.
Tu comprendras quand tu seras à ma place.
J'espère, un jour.
Ouais. Mais je trouve ça trop intéressant d'essayer de faire comprendre à ses enfants que, en fait, l'égalité et l'équité, c'est pas la même chose, quoi, tu vois. C'est-à-dire que il y a des enfants qui ont besoin de plus ou moins d'attention, de plus ou moins de règles, de cadres, etc. Et c'est sûr que je peux comprendre qu'ils ne comprennent pas, quoi. Mais bon.
Parce que, tu vois, c'est le genre de réflexion que nous fait Lison. Oui, tu râlais pas quand Jules y passait ses après-midi sur son téléphone dans son lit. Et puis, moi, tu viens me tirer du lit. Mmh. Alors, je dis, je viens te tirer du lit pour que tu bosses, parce qu'il faut quand même un peu bosser. Mmh. Je dis, Jules, il y avait les résultats qui suivaient. Mmh. Donc, on n'avait pas, tu vois.
C'était plus dur de lui dire, va bosser, alors qu'il
cartonnait. Va bosser, alors que, voilà. Mmh. Elle a pas les résultats à côté, donc on lui dit, non, je suis désolée, tu vas te lever, en fait. Donc, c'est sûr. Et du coup, c'est vachement difficile à faire passer, tu vois, comme message. C'est la petite dernière, elle se dit, oula, à quelle sauce je vais te manger, moi aussi, après. Mais bon, t'auras tes règles aussi.
C'est un peu le concept de la vie, quoi. Mm. Ah ouais, je comprends. Mais c'est sûr que c'est dur, hein. L'adolescence, c'est tout un poème, hein.
Ouais. Oui, oui.
Merci beaucoup Delphine.
Bah de rien.
C'était très cool.
Ouais, très
merci
sympa.
Bien.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.